Bonjour à tous. Je vous inviterai à vous avancer un peu. On peut faire, vu qu'on n'est vraiment pas nombreux, on peut se mettre plus devant, même vous qui. Vous êtes le plus. Venez le plus proche. Ouais, c'est ça. Toujours dans les concerts, c'est toujours les plus chers. Comme ça, en plus, c'est parfait. Je peux voir et mes notes et vous en même temps. Mais viens de ce côté-là. N'hésite pas à t'approcher. Juste ici. On va être. On est là en famille. On va. Joey, n'aie pas peur. Viens, viens. Normalement, je postillonne pas jusqu'à aussi loin. C'est presque, j'aurais même pas besoin de micro, vu qu'on n'est pas nombreux ce matin. C'est vraiment cool. Okay, vous avez bien eu les notes? Les notes sont à l'arrière, c'est parfait. Si vous voulez bien, je commence en priant. D'accord? Seigneur notre Dieu, on vient devant toi. On n'est pas nombreux ce matin, mais peut-être que plusieurs vont regarder ce cours en vidéo par la suite cette semaine. Alors, je te prie vraiment de nous faire du bien par ta parole. Seigneur, la prière est une arme merveilleuse qui peut tout arrêter, qui peut transporter les montagnes. Seigneur, la prière est quelque chose d'unique, d'incroyable quand on vient devant toi et qu'on prie ta parole, qu'on prie selon ta volonté. Seigneur, on peut vraiment voir de belles et grandes choses à travers la prière. Je te prie de nous enseigner, Seigneur, à être captivés, passionnés par toi. Que nos vies de prière soient vraiment en feu et qu'on puisse vraiment compter sur la prière pour avancer dans notre vie chrétienne. Seigneur, je te prie que notre Église puisse gagner en croissance spirituelle, dans la connaissance de la prière, de la puissance de la prière, de l'œuvre de la prière. Seigneur, tout ça est possible parce que tu es venu sur terre, que tu as vécu la vie qu'on aurait dû vivre. Que tu nous as toi-même enseigné à prier et que par-dessus tout, Seigneur, tu es mort et ressuscité pour nos péchés. Nous offre un accès auprès du Père vraiment merveilleux. Seigneur, on veut bénéficier de cet accès auprès du Père et le vivre pleinement. Aide-nous à comprendre ta parole et à s'émerveiller de tout ça. En ton nom. Amen. Ok. Super. T'es presque un peu loin, Michel. Ok, donc dans la première partie du livre de la prière de Timothée Keller, on a vu qu'on était encouragé à avoir le désir de prier. Maintenant, on est rendu dans la deuxième partie. On a vu un chapitre avec Yoé sur comprendre la prière. Et donc le but de ce cours est toujours dans cette deuxième partie, comprendre la prière. Le but de ce cours est de voir que la prière est une communication avec Dieu et non pas juste un monologue. Donc dans le cours précédent, on a vu une définition de qu'est-ce que c'est la prière. La prière, c'est une réponse personnelle et communicative à la connaissance de Dieu pour qu'il accomplisse sa promesse tout en ayant une communion et le désir que son royaume soit établi. Dans un certain sens, prier, c'est dire à Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur, nous t'en prions, accomplis ce que tu as promis de faire. Avec Yoé, on a vu que la prière était soit comme un réflexe naturel, soit comme un don spirituel. En tant que réflexe, c'est un peu cette prière qu'on lance un peu comme un appel au secours de, ok, si Dieu existe, il va entendre ma prière, un peu comme si on mettait un mot dans une bouteille et qu'on lançait ça à la mer au cas où que quelqu'un retrouverait cette bouteille. Et en tant que don spirituel, elle poursuit une communication commencée par Dieu. On va surtout voir ça, ce côté communication, communion avec Dieu. Il y a deux types de prières qu'on a vues encore une fois avec Yoé, celles qui sont centrées sur la communion et celles qui sont centrées sur le royaume. Celles qui sont centrées sur la communion, c'est un peu plus ce côté contemplation de qui est Dieu, de sa personne, et de s'émerveiller de tout ça, de vraiment vivre la présence de Dieu. Et celles qui sont centrées sur le royaume, c'est, elles visent à voir l'accomplissement du royaume de Dieu dans nos vies, dans notre Église, dans le Québec, dans le monde entier. À travers toutes les religions, mais aussi à travers toutes les époques, l'homme a utilisé différents moyens pour parler avec Dieu. D'accord ? C'est quelque chose de inné chez l'homme de pouvoir chercher à re-rentrer en communion avec Dieu, à retrouver cette communication brisée avec Dieu. C'est quelque chose de inné dans l'être humain. On le voit à travers tous les ères des temps. La prière, bien évidemment, est un moyen que les hommes ont mis en place, ou en tout cas aussi instauré par Dieu, on s'entend. Mais la prière a essayé de prendre plusieurs styles de formes et notamment a eu des obligations d'heures de prière. L'islam impose 5 prières par jour. Le catholicisme, le judaïsme, pareil, essaye d'imposer ou en tout cas de conseiller fortement à prier sur des heures régulières. Il y a la méditation transcendantale, le yoga, le soufisme, tous ces genres de choses où on essaye de rentrer en communion avec Dieu. Il y a des sacrifices d'animaux, d'humains qui sont là pour essayer d'effacer nos dettes pour pouvoir enfin rentrer en communion avec Dieu. Il y a des rituels comme les pèlerinages où on veut aller à un endroit spécifique pour essayer de rentrer en communion avec Dieu ou essayer de voir nos prières être exaucées. Il y a la privation comme le jeûne qu'on peut pratiquer pour certains, le carême, le ramadan, le Yom Kippour. Tout ça, ce sont des privations de notre vie quotidienne où on se dit « Ah, ben, si je me prive de telle ou telle affaire, alors Dieu va m'écouter. » Il y a aussi des objets qui aident à la prière, comme le chapelet chez les catholiques, des icônes comme chez les orthodoxes, la croix, les tapis de prière pour les musulmans, des statues, des mains jointes qui sont là pour essayer de rester concentré dans la prière, comme un peu des outils, des objets qui sont faits pour « Ok, je vais rentrer en communion avec Dieu. » Certaines de ces choses sont des bonnes choses, sont des bons conseils, sont des bons moyens pour rencontrer Dieu, mais ce n'est pas forcément ça, la prière. Ce sont peut-être juste des moyens. Et en fait, tous ces différents moyens qui sont mis en place par l'homme pour parler avec Dieu ont pour objectif commun de se reconnecter avec le divin et d'enfin de connaître notre fonction, le but de notre vie sur Terre. Mais malheureusement, notre nature pécheresse voue toutes ses tentatives à l'échec. L'action de Dieu pouvait rétablir notre communion brisée avec lui par Jésus-Christ. En tout cas, il a accompli ça par Jésus-Christ. D'après Tim Keller, la prière telle que nous la connaissons aujourd'hui est en fait une conversation entamée par Dieu. Et si elle se prolonge, cette conversation peut devenir une rencontre avec Dieu, le ciel dans la vie ordinaire. C'est beau ça, n'est-ce pas? Le ciel dans la vie ordinaire. La prière peut faire venir le ciel dans notre vie ordinaire. Il n'y a pas de question ici de main jointe ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que Dieu est venu à notre rencontre, parce que Dieu a commencé la discussion avec nous, que nous on peut répondre et avoir le ciel dans la vie ordinaire. C'est vraiment tout le principe de base que Tim Keller explique dans son chapitre 4, parler avec Dieu. Et donc, puisque la prière est notre réponse à Dieu, eh bien, on doit d'abord étudier comment il nous parle pour pouvoir ensuite lui répondre, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je vous propose dans le premier point. En fait, c'est un point que je prends directement du livre qui s'intitule « Rencontrer Dieu à travers sa parole ». Tim Keller commence à parler du Dieu trinitaire. Il part sur tout un mouvement très philosophique. Je n'ai pas forcément voulu aborder ça, mais je voulais plus venir à, sur ce point de Dieu trinitaire et avec cette grande question de si Dieu est trinitaire, alors qui on prie ? On prie le Père ? Est-ce qu'on prie le Fils ? Est-ce qu'on prie le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit ? Ça, c'est la grande question que j'aimerais voir juste dans ce sous-point. Et la Bible nous donne plusieurs exemples de prières adressées au Père, à Dieu le Père. Éphésiens 1, 17, Matthieu 6, Luc 11 sont les exemples où, où justement Jésus montre comment nous devons prier et à qui. Il enseigne ça à ses disciples. Mais on voit dans la Bible qu'il y a relativement peu de prières adressées directement à Dieu le Fils. Pour une des bonnes raisons, c'est que la plupart des prières, des exemples de prières sont soit dans l'Ancien Testament, soit où c'est Jésus lui-même qui fait la prière. Jésus ne va pas se prier lui-même, il va plutôt viser à prier Dieu le Père. Mais on a quand même des exemples, notamment dans Actes 7, dans Romains 10 et dans Apocalypse 22. J'ai juste donné trois références, il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament. Parcourez les pages du Nouveau Testament et vous allez voir plusieurs prières adressées à Dieu le Fils. Par contre, on a une seule prière dans toute la Bible adressée au Saint-Esprit. La prière se trouve dans Ézéchiel au chapitre 37, verset 9, où en fait Dieu est en train de demander à Ézéchiel de prophétiser en faveur du peuple d'Israël, leur disant que leur peuple va de nouveau être uni. Et là, ils étaient divisés à cette période-là en deux parties, qui est, plusieurs sont partis dans plusieurs autres nations aux alentours. Non, mais là, Ézéchiel, il dit, enfin, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et tu vas voir le royaume d'Israël deviendra encore une seule et même nation. Et dans ce texte, Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils reprennent vie. Dans tout un passage avec les eaux séchées où Dieu veut redonner vie à, justement en image à son peuple d'Israël. Et alors, juste une petite note par rapport à ça, c'est que Dieu dit à Ézéchiel de prier le Saint-Esprit. Donc si nous voulons prier le Saint-Esprit, ce qui est probablement possible, en tout cas, oui, moi je crois que oui, mais par contre, il faut être absolument convaincu que cela vient de Dieu. Et que c'est Dieu lui-même qui nous demande de prier le Saint-Esprit. Que, en gros, que c'est Dieu lui-même qui nous demande de le prier. Vous voyez un petit peu la nuance ? Mais pour continuer un peu sur cette question de qui on doit prier, je voudrais vous inviter à plus considérer la prière comme quelque chose comme on va s'adresser à Dieu le Père. Dieu le Père, on va s'adresser à lui parce qu'on a plusieurs exemples, la manière notamment comment Jésus nous enseigne à prier, il nous enseigne à prier Dieu le Père. Puis on a plusieurs exemples, je vous ai mis des références dans les notes. C'est à lui qu'en fait on veut parler. C'est à lui que nous venons, dans le fond, dans la prière, on veut venir à Dieu le Père. Mais si on peut venir face à Dieu le Père, c'est grâce à Dieu le Fils. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est grâce à Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui nous déclare maintenant juste aux yeux de Dieu, par sa mort, par sa résurrection. Et Dieu nous accepte justement parce que nous sommes en Christ. C'est pour cela qu'on va souvent terminer notre prière au nom de Jésus. Vous voyez, on veut prier le Père au nom du Fils. Et l'Écriture nous enseigne que nous prions par Dieu le Saint-Esprit. Romains 8, versets 26 et 27 nous montrent comment le Saint-Esprit nous aide dans la prière et comment il vient à notre secours. Je lis juste Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc vous voyez, on prie Dieu le Père par le Fils. Non, je me suis trompé. On prie Dieu le Père au nom du Fils par l'Esprit Saint. Ça va ? C'est clair ? En tout cas, j'espère. J'essaie de travailler ça. Et je trouve que c'est beau que quand on comprend justement ça, on prie Dieu le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. En fait, on voit qu'il y a une vraie proximité dans la prière. Est-ce que vous la voyez ? On prie Dieu, le grand Dieu, le créateur de l'univers, celui qui pourrait être considéré comme vraiment loin, terrifiant, puissant, où on veut s'en éloigner. Mais on peut prier ce Dieu-là parce que, au nom du Fils, on est réconcilié avec lui. Donc là s'installe une proximité et on fait des prières par le Saint-Esprit. Donc par Dieu lui-même. Et donc là, il y a cette notion de, en fait, Dieu, est, dans la prière, devient un ami, devient un Dieu personnel. Et c'est pour ça que Tim Keller, dans la page 65, dit « La prière chrétienne ressemble plutôt à une communion avec le Dieu personnel qui devient notre ami grâce au dialogue. » Je trouve ça absolument fantastique de voir ça comme ça. En fait, Jésus est devenu notre frère. On a une accessibilité incroyable par rapport à la prière, par rapport à Dieu, où il y a vraiment ce Dieu trinitaire qui se fait personnel. Ok, on poursuit le petit point 2. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Tim Keller relève le fait que Dieu nous parle en premier, et notamment à travers les Écritures. Et lorsque Dieu parle, ses paroles sont identiques à celles de ses actes. Il va donner quelques exemples, notamment celui de Genèse 1, verset 3, quand Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Le passage ne dit pas que, puisque Dieu a parlé, Dieu a agi en conséquence, et la lumière est arrivée. Non, le simple fait qu'il prononce le mot « lumière », la lumière s'allume. Et nous, on aura beau dire que la lumière soit dans cette salle, bah, s'il n'y a personne qui va pour allumer l'interrupteur, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ? Mais Dieu, lui, sa parole égale ses actes. Ces mots n'ont pas besoin d'être validés, ils atteignent toujours leur but. Un autre exemple, Genèse 17, verset 5, quand il dit à Abraham, « Mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Ces simples mots font d'Abraham et de Sarah un couple qui n'est plus stérile, qui va pouvoir engendrer des enfants et une grande nation. Notre exemple dans les psaumes, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Ce que fait la voix de Dieu, Dieu l'accomplit. En fait, la parole de Dieu se fond dans son action. Je trouve ça, encore une fois, vraiment beau et tellement rassurant aussi pour nous dans la prière et dans notre lecture de la parole. Quand nous entrons dans une dynamique de on veut lire la parole de Dieu pour savoir comment elle peut impacter notre vie, les promesses faites par Dieu vont s'accomplir parce que sa parole égale ses actions. Et donc quand on prie que sa volonté soit faite, ben, c'est qu'on prie que Dieu nous parle et que l'action viendra immédiatement en suivant. Je cite une citation de Tim Keller, « Si les paroles de Dieu sont sa présence active et personnelle, leur faire confiance revient à faire confiance à Dieu. Une communication de la part de Dieu est donc une communion avec Dieu lorsqu'elle rencontre une réponse pleine de confiance de notre part. » Vraiment, moi je trouve ça magnifique de se dire et un bel encouragement à se dire « Ok, je vais faire confiance aux paroles de Dieu. » Parce que les paroles de Dieu égalent ses actes. Dieu affirme que la Bible affirme que Dieu mettra ses paroles dans la bouche de ses prophètes. Et la Bible est donc la parole écrite de Dieu et elle demeure sa parole aussi quand nous la lisons aujourd'hui. Eugène Peterson dit ceci, « Le langage nous est insufflé. Nous apprenons à parler parce que quelqu'un nous a d'abord adressé la parole. Dès notre naissance, nous sommes plongés dans un océan de paroles. Ensuite, syllabe après syllabe, nous acquérons la capacité de répondre. Maman, papa, boire, non, donne. Mais aucun de ces mots n'a jailli de notre bouche sans avoir été prononcé auparavant pour autrui. Tout discours est une réponse. Nous avons tous été interpellés avant de pouvoir parler. » Quand j'ai lu ça, ça c'est une citation de Eugène Peterson, mais qui est citée dans le livre de la prière. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Oh, tiens, ça me parle pas mal », avec ma petite fille qui commence à dire gentiment « Maman et papa ». C'est parce qu'on lui a dit, qu'on lui parle, on essaie de lui parler encore et encore. Et en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'il y a une vérité qui est que si on veut parler à Dieu, si on veut apprendre à lui parler avec ses mots, avec ce que lui, encore une fois, ce truc de que ta volonté soit faite, on a besoin d'apprendre à savoir comment il nous parle. Et ça se passe à travers les Écritures. Comment est-ce que Dieu nous parle ? Et quel est le vocabulaire de Dieu ? Quelle est la richesse des types de prières que nous pouvons adresser à Dieu ? Tout ça nous est adressé dans la prière. Donc on a besoin d'apprendre et à se nourrir de la parole de Dieu pour pouvoir apprendre à prier. Très certainement pour ça que l'Église catholique a demandé d'apprendre et réciter par cœur le Notre Père. En fait, on veut s'inspirer des Écritures, on veut s'inspirer de ce que la Bible dit et de le réciter, de vraiment le vivre. Je pense que juste le réciter pour le réciter, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais vous comprenez ce qu'il y a derrière, ce truc de « Ah, je veux m'inspirer de ça pour pouvoir parler à Dieu. » Je me suis dévié de mes notes. Ce que je voulais vous parler dans ce petit point aussi, c'est de la Lectio Divina. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est instauré par les pères de l'Église, où en fait on veut faire une lecture lente de la parole de Dieu pour que Dieu puisse nous parler, pour qu'on puisse faire attention à chaque mot. Et que peut-être il y a un mot qui va résonner de manière particulière dans la parole, où on va se dire « Ah ouais, ça c'est pour moi. » Donc la Lectio Divina est tout un moment où on veut vraiment prendre le temps de lire la parole lentement et de découvrir ce que Dieu a vraiment à nous dire, qui va nous pousser par la suite à une méditation de « Ok, pourquoi tel mot me parle à moi dans ma situation là maintenant ?» et méditer là-dessus, et puis après répondre à ça, répondre en prière, de dire « Ok, Seigneur, je veux prier cette parole, je veux te prier justement cette phrase qui m'a marqué. Peut-être c'est une promesse pour moi, mais je veux te prier qu'elle s'accomplisse. Ou peut-être c'est quelque chose que j'avais jamais remarqué et qui me montre que dans mes difficultés, ça m'apprend une leçon. Je veux te remercier pour cette leçon, je veux prier cette leçon pour que je puisse me rappeler sans cesse de ça, mais aussi que je puisse la communiquer et la partager à d'autres. Donc la Lectio Divina est vraiment un bon moyen de méditation des Écritures, de voir comment est-ce que Dieu peut nous parler aujourd'hui. Justement, avec cette question de parler à Dieu, c'est mon deuxième point, parler à Dieu. On essaie de le rencontrer dans sa parole, on voit comment lui nous parle, et maintenant, nous, à nous de parler à Dieu. Dans plusieurs religions, comme le catholicisme ou l'hindouisme, on voit que certains font des vœux de silence. Vous avez déjà entendu ça ? Des monastères où aucun bruit n'est toléré, il faut juste se taire. Les hindous font ça aussi dans leur temple, où il est important de ne pas parler. Et tout ça, c'est pour éviter de vaines paroles et surtout pour approfondir et grandir dans leur spiritualité. Ce qui est sûr, c'est que Jésus, juste avant d'enseigner de comment on doit prier, dit « Surtout ne multipliez pas les vaines paroles. » Donc, pourrait presque se dire que bah, ok, c'est correct. Mais Jésus le dit dans un cadre d'une condamnation envers les pharisiens qui, eux, justement, se plaisaient à prier longuement sur les places publiques pour paraître des hommes bien et spirituels. Mais tout de suite en suivant, Jésus donne un exemple de prière. Ce n'est pas un exemple de juste se taire, c'est un exemple de parler. C'est un exemple à formuler des prières verbales. Donc, vous voyez, oui, il ne faut pas multiplier des vaines paroles, mais Dieu s'attend à ce qu'on lui prie de manière verbale. Dieu nous aime qu'on lui parle en parole. Il attend une réponse à sa parole. Il attend qu'on lui formule une réponse par nos paroles, ce qui va permettre un rétablissement de la communication verbale entre lui et nous. Puisque Dieu est une personne, on l'a vu, c'est Dieu est trinitaire, un seul Dieu en trois personnes. Puisque Dieu est une personne, alors il s'attend à ce qu'on lui réponde, qu'on lui exprime ce qu'on pense d'une manière verbale, même peut-être certains le font de manière écrite, ce qui est tout à fait correct aussi. Mais le fait de prendre le temps de lui dire les choses nous rappelle qu'au fond, que quand il répond à notre prière, il ne répond pas juste à une pensée qui nous est passée par la tête comme ça. Non, il répond à quelque chose qu'on lui a adressé, qu'on lui a dit. Je prends un exemple. Si je rentre chez moi le soir et que je rêve de manger un bon burger, si je ne le dis pas à Léa, ou si je ne l'exprime pas, et si je ne me fais pas un burger, je ne le mangerai jamais. Mais par contre, si je viens et que je dis à Léa, « Ah, tu sais quoi, j'aimerais tellement qu'on mange burger ce soir, t'es partante ?» Ben, là, elle va pouvoir dire, « Eh, ben ok, très bien, j'avais rien prévu ce soir, ou j'en sais rien, et puis hop, et elle va faire. » Je suis bien conscient que Dieu sait tout, il sait même le fond de nos pensées, mais je trouve que ça marque quelque chose quand on exprime, ça, c'est plus un rappel en fait dans le fond pour nous, de se dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais prié ça à Dieu. » J'avais pris le temps d'arrêter, de faire une pause dans ma journée et de dire « Seigneur, je te remets ça. » Certains le font et écrivent des prières. Ce qui est pas mal, c'est que quand tu reviens sur ton carnet de prières, tu vois exactement ce que tu as prié. Et c'est un bon rappel que Dieu a répondu. Donc oui, dans le fond, la prière verbale, elle est presque plus nécessaire pour nous que pour Dieu, mais elle est précieuse pour voir que Dieu répond à nos prières et que la communication, elle est bien passée, que la communication est vraiment aller-retour entre Dieu et nous. Alors, quelle prière adresser à Dieu ? Toutes sortes, absolument toutes sortes. Il y a plein de prières variées qui sont relatées dans la parole de Dieu. Dieu nous a créés tous différents, avec des sensibilités différentes, des manières de s'exprimer différentes, avec des cultures différentes. Et tout ça a pour but de répondre, en fait, à la grandeur de Dieu, à la gloire de Dieu. Tim Keller dit « Les psaumes dévoilent un nombre incroyable de façons de prier. Cris d'émerveillement, plainte virulente, arguments raisonnés, déclarations et jugements, appels et demandes, injonctions et condamnations de soi, autant de discours, d'attitudes et d'émotions radicalement différentes. » Il y a plein de formes de prières, je voudrais vous en citer quelques-unes, il me semble que je vous ai mis ça dans les notes. Prière de louange et d'adoration, prière de reconnaissance, prière de confession et de repentance. Prière de supplication. Prière de supplication, c'est plus présenter nos besoins à Dieu. Seigneur, je te supplie de m'aider dans telle tâche. Prière d'intercession. Là, c'est la même chose, c'est la même intensité dans la prière, mais pas pour nous, mais pour les autres. Présenter les besoins des autres. Seigneur, j'intercède pour tous ces peuples qui ne te connaissent pas. Prière de méditation et d'écoute. Justement, un peu ce temps de pause, de silence, de dire... de lecture de la parole de Dieu. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Prière de silence, comme je viens de le dire aussi, de faire silence devant Dieu, de voir sa seigneurie et de voir sa royauté. prière de consécration. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, elle va te servir. Et prier la parole, on a aussi des exemples dans la parole de se dire, ben, voilà, je vois ce texte, je vois ce paragraphe qui me parle, ben, Seigneur, je vais prier ces mots-là. Un exemple dans Éphésiens, où Paul prie et fait référence à l'Ancien Testament. Alors, peu importe que vous soyez extraverti, introverti, vous venez d'une culture chaude, donc très relationnelle ou froide, plutôt individuelle, ou que vous êtes bavard ou non, vos prières, sur toutes les formes qu'elles soient, sont une réponse à Dieu et répondent à la gloire de Dieu. Parce que Dieu est plus diversifié que ce que vous ne pourrez l'être. Je trouve ça incroyable comment Dieu, en parcourant, j'ai fait plusieurs voyages missionnaires, en parcourant le monde, de voir comment Dieu parle et quelles sont les réponses des hommes de manière tellement différente de ce qu'on connaît actuellement dans nos cultures. J'ai appris à prier de mon plus jeune âge, les mains jointes, les yeux fermés, à être concentré sur ce qu'on va dire à Dieu. Je suis allé en Afrique, des gens juste dansent de joie, crient de joie. Ce n'est pas une réunion de prière timide où on est juste les mains jointes. Non, et je trouve ça merveilleux de voir comment, autant que nous sommes différents, nous pouvons exprimer à Dieu notre réponse, comment la parole nous fait du bien. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Encore une fois, j'ai dévié de mes notes. Le Dieu biblique, il est majestueux et tendre. C'est un Dieu saint qui pardonne, un Dieu rempli d'amour et insondable. C'est pourquoi la prière ne peut pas juste être que confession misérable, ou soit que louange un peu triomphante, ou juste un appel plaintif. Non, elle est variée, elle peut être plusieurs sortes. Et les psaumes sont vraiment nous aident à avoir tout ça, vraiment. Certaines prières bibliques ressemblent à des conversations intimes avec un ami. On voudrait être tout seul, que juste que ce soit entre nous et Dieu. D'autres sont plus des cris de joie, où on peut vivre ça en tant qu'Église, où on peut prier de manière et intercéder pour les nations ou pour autre chose ensemble en Église. D'autres, c'est plus des prières de révérence face à Dieu, face à sa grandeur, face à sa création. D'autres, c'est plus un appel au secours, un appel au combat, de dire « Seigneur, aide-moi à lutter contre tel ou tel péché ». Donc, tout ça pour dire que la prière est vraiment très variée, peut prendre plusieurs formes, je pense que vous l'avez compris maintenant. Et une des formes qu'elle peut prendre, et que je vous ai mis ça en un troisième sous-point, hein, la prière collective comme réponse au plan de Dieu. Et je vais vous parler de ça parce que c'était plusieurs questions qui sont arrivées dans les derniers cours, où je vois qu'en fait, parler avec Dieu, c'est personnel, mais c'est aussi en tant qu'Église. C'est aussi ensemble que nous pouvons prier et nous adresser à Dieu, répondre d'une communication avec lui. Et je suis vraiment marqué comment le livre des Actes nous montre la puissance de la prière collective. Plusieurs commentateurs, j'aime ça, les commentateurs disent que les évangiles sont en fait les actes de Jésus et que les actes des apôtres, qui portent plus ou moins mal son nom, c'est plutôt les actes du Saint-Esprit. Comment les apôtres prient Dieu et que le Saint-Esprit va agir au travers eux, à travers toute la naissance des premières églises. Et dans le livre des Actes, si vous prêtez attention, la prière communautaire joue un rôle crucial. La première chose, c'est qu'elle montre l'unité. À partir du moment où Jésus est remonté au ciel, les disciples se rassemblent de manière unanime, qui forment un, et ils persévèrent ensemble dans la prière. Ça, c'est acte 1, verset 14. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est belle leçon en-delà de l'unité, c'est aussi ce truc de ben, ça nous encourage à persévérer dans la prière. Quand on se retrouve tous ensemble, ben, c'est catalyseur pour notre vie de prière. De se dire, ah mais ouais, je peux persévérer dans la prière. Et puis j'aime prier avec mes frères et sœurs. Et puis on voit des exaucements ensemble dans la prière. Donc c'est aussi une source d'encouragement pour prier. C'est une source d'encouragement aussi quand quelqu'un traverse une épreuve. Et ça, on le voit dans Acte 12 notamment. Pierre est gardé en prison. Et c'est toute l'Église qui vient adresser pour lui des prières à Dieu. Et c'est tout de suite le verset suivant qui nous dit que Pierre est délivré. Coïncidence ? Je ne pense pas. La prière est efficace. Et là, on voyait, et là, on peut s'imaginer que, en fait, c'est toute l'Église qui va dire « Amen ! Dieu a répondu à notre prière. » Donc, vous voyez, dans cette situation, il y a un membre de l'Église qui souffre. C'est toute l'Église qui prie pour lui. Et en fait, c'est toute l'Église qui va aussi rendre gloire à Dieu pour la délivrance que Dieu a accordée. Ce n'est pas seulement juste une ou deux personnes qui ont prié pour que Pierre sorte. Et Dieu aurait pu tout à fait le faire aussi. Mais je pense qu'il y a aussi une belle, en tout cas, une beau source d'encouragement pour nous de prier les uns pour les autres ensemble et de voir à quel point Dieu répond aux prières. Encore une fois, dans le livre des Actes, ça nous encourage vraiment comment... Les premiers disciples hâtaient le retour de Christ, appelaient à ce que Dieu revienne. Et ça, c'est l'annonce de l'Évangile partout à travers de toute l'Europe, en tout cas dans le livre des Actes. Et c'est dans un moment de prière où les disciples vont mettre, où le Saint-Esprit va dire aux disciples de mettre à part Paul et Barnabas. C'est vraiment un moment d'adoration, un moment de louange, un moment de communion avec Dieu, de contemplation de sa personne, où en fait, la réponse de Dieu, c'est « Mettez à part pour moi, Paul et Barnabas. » Et ça les aide à voir comment Dieu va poursuivre son plan pour les nations. Ok, troisième point, rentrer en dialogue avec Dieu. On a vu, Dieu nous parle à travers sa parole, nous, on lui répond. Et en fait, il y a toute cette question de, ok, entretenir ce dialogue, ne pas perdre ce aller-retour. Premier sous-point, c'est, Tim Keller parle de ça, parle de prière déconnectée. Imaginez un instant qu'un père avec son enfant... Le père veut savoir comment ça s'est passé sa journée, il veut savoir qu'est-ce qu'il a mangé à l'école, comment on va avec ses amis. Bref, il veut s'intéresser à son fils. Et son fils ne lui pose complètement à côté de la plaque, il va juste lui dire « Papa, quand est-ce qu'on mange est-ce qu'on peut manger des spaghettis et au fait, pourquoi le ciel est bleu ?» Rien à voir avec ce que le père voulait établir comme communion, comme échange, comme dialogue avec son fils. Vous voyez ? Et malheureusement, c'est souvent notre cas avec Dieu. Où Dieu veut rentrer en dialogue avec nous, où Dieu veut vraiment établir une communion, veut échanger ensemble, et nous, on part sur un sujet complètement différent, complètement ailleurs, complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, personnellement, j'ai l'impression que ça m'arrive malheureusement souvent. J'ai besoin souvent de me confesser, de me dire « Ah oui, Seigneur, je suis désolé. En fait, c'est ça que tu veux que je te prie. C'est ça que tu veux que je m'inspire comme prière. C'est ça que tu veux que je vive dans mon culte personnel. Donc, il y a ça. Et de temps en temps, même... Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on va suranalyser ce que Dieu nous demande ou ce que Dieu dit. Vous savez, on peut... Mais je reprends cette image de cet enfant où le père lui pose une question, « Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, par exemple ?» Et que le fils commence à dire, « Ok, qu'est-ce que j'ai mangé ? » Est-ce que manger, dans le grec, ça veut dire passer par la bouche et aller jusqu'à mon estomac ? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une affirmation? Non. Malheureusement, souvent, on étudie la Bible un peu comme ça. Vous voyez un peu ce truc de oh, qu'est-ce que Dieu voulait dire ici? Ah, ok, dans le grec. Ah. Non, non, attendez. Qu'est-ce que Dieu te parle? Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Comment, vous voyez ce que je veux dire? Comment on peut rentrer en communication avec Dieu, pas suranalyser ce que Dieu dit? Bien sûr, il faut rester fidèle au texte, fidèle à ce que Dieu dit, pas suranalyser dans un autre sens ou surinterpréter, mais au contraire, essayer d'être juste et que ce soit vraiment du dialogue. Dieu nous parle, je lui réponds. Donc nous devons sans cesse, la solution pour ça, c'est sans cesse se rappeler qui Dieu est et qui nous sommes. Ça devrait nous pousser constamment à la confession de nos péchés, à la reconnaissance de sa grâce. Et ça doit nous amener des prières vraiment de confession, de repentance. Et une prière sans confession et repentance, en fait, ne considère pas vraiment le Dieu à qui nous nous adressons. Dieu est trois fois saint. Malheureusement, nous sommes encore sous l'influence du péché. Demander pardon, reconnaître son péché, c'est aussi considérer à qui l'on parle. Le danger de s'être immergé de le danger de pardon, le danger de prier sans s'être immergé de la parole de Dieu est que livré à nous-mêmes, nous prions un Dieu qui nous dit ce que nous voulons entendre, où nos prières sont en réaction à un attribut de Dieu en oubliant les autres. Et en fait, ça peut nous amener à prier que ma volonté soit faite plutôt que ta volonté soit faite. En fait, si on n'est pas immergé par la parole de Dieu, on peut dévier et faire de nous-mêmes notre propre Dieu. Donc c'est le danger. Et ça, c'est une longue pente glissante qui nous amène tout doucement loin de Dieu. C'est pas quelque chose qui change directement, mais non, c'est quelque chose où souvent on ne le voit pas arriver. Et c'est quand on est loin qu'on se dit, oh mince, j'ai perdu le cap. Tim Keller dit une citation que je pense que je vous ai mis aussi dans les notes. Il y a une différence entre prier un Dieu inconnu que nous aimerions découvrir dans la prière et prier un Dieu connu, révélé par Israël et Jésus-Christ, qui parle notre langue. Dans le premier cas, nous faisons tout pour assouvir notre soif d'être exaucé sur le plan religieux. Dans le second, nous mettons en pratique l'obéissance de la foi. Le premier est bien plus agréable, le second est bien plus important. L'essentiel dans la prière, ce n'est pas d'apprendre à s'exprimer, mais d'apprendre à répondre à Dieu. Je trouve ça vraiment percutant parce que souvent on peut dire, ah mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Comment est-ce que je vais exprimer ce que je pense? Mais la réponse est là, dans la Bible. C'est en nourrissant notre relation et notre compréhension des Écritures que nous allons pouvoir répondre à Dieu. En fait, on doit apprendre, et c'est ce qu'il dit, apprendre à répondre à Dieu. Mais pour apprendre à répondre à Dieu, on a besoin d'apprendre ce qu'il nous dit. Je trouve ça vraiment percutant, j'espère que vous me suivez dans ça. Mon deuxième sous-point pour dialoguer avec Dieu, c'est avoir envie de prier. Tim Keller partage un exemple dans la parole dans 2 Samuel au chapitre 7. Ouais, j'ai pas le temps. Ok, on va pas le lire parce que je vais manquer de temps. Mais David voulait bâtir un temple pour Dieu, mais le Seigneur l'avertit par le prophète Nathan qu'en fait il n'en sera pas ainsi. Dieu lui promet que c'est Dieu lui-même qui en fait va bâtir une maison pour David. En fait, c'est un puissant jeu de mots dans le texte, mais c'est assez fou. C'est David qui dit, je veux te construire une maison, et Dieu qui lui dit, non, c'est pas toi qui feras ça, c'est moi qui vais te construire une maison, c'est moi qui vais te construire une descendance, et que c'est moi qui vais faire que ton nom perdure de génération en génération. Et c'est des belles prophéties pour annoncer que Christ, fils de David, va être sur le trône, va construire la maison pour David. C'est absolument merveilleux, mais ce que je veux aller, c'est au 2 Samuel chapitre 7, verset 27, où David dit, il reprend les mots de Dieu, « Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris le courage pour t'adresser cette prière. » En fait, la parole de Dieu a créé en David le désir, l'énergie et la force de prier. C'est absolument merveilleux. Et c'est toujours le même principe. Dieu nous parle dans sa parole. Nous lui répondons en priant. Nous entrons alors dans une conversation avec le divin, dans une communion avec Dieu. C'est une citation de Tim Keller quand il commente justement ce passage. Je trouve ça beau. David a eu à cœur de prier lorsqu'il a reçu la parole de Dieu. D'après Keller, les chrétiens ont reçu une promesse nettement plus importante que celle de David. Dieu ne se contentera pas de construire une maison. Il fera de nous sa maison. Il nous remplira de sa présence, de sa beauté, de sa gloire. Chaque fois que les chrétiens se rappellent leur identité en Christ, cette promesse s'installe en eux et leur cœur les incite alors encore et encore à prier. Encore une fois, une citation de Keller. Alors, que faire pour avoir envie de prier? Première chose, on l'a vu que Dieu parle à travers les Écritures et que nous, nous voulons répondre à Dieu, alors il faut s'imprégner des Écritures. Il faut lire les Écritures, il faut méditer les Écritures. Il faut il faut apprendre à creuser tout ça. Il faut méditer tout ça. Et tout ça va nous permettre de connaître notre identité en Christ et de connaître la volonté de Dieu. La deuxième chose, prier d'avoir envie de prier. Ça peut être drôle, mais c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors si nous avons envie de prier, ben prions pour que nous prions plus. Autre chose, venir aux réunions de prière. Vous avez envie d'avoir envie de prier? Venez aux réunions de prière. Parce que ensemble, en tant qu'Église, on peut s'encourager à prier et à prier plus. Il n'y a pas si longtemps, aux États-Unis, lors d'une réunion de prière, il s'est passé quelque chose d'incroyable, où ils se réunissent, une quarantaine de personnes, pour prier, parce que c'est leur traditionnelle réunion de prière. La réunion de prière commençait à 19h, et ils ont terminé 2 jours plus tard. Et à la fin des 2 jours, c'était plus de 1000 personnes dans un lieu juste à prier, à chercher la face de Dieu. En fait, venir dans une réunion de prière, venir entre frères et sœurs, nous incite à vouloir prier plus. Parce qu'on voit des exaucements à droite, à gauche, parce qu'on voit des frères et sœurs qui formulent des prières qu'on se dit, oh, purée, j'aurais peut-être jamais osé demander ça à Dieu. Mais en fait, je vois qu'il y a un exaucement derrière. Et je vois que ben, moi, ça me montre ou ça me pointe du doigt peut-être un péché que j'ai laissé installer dans ma vie et que je veux demander pardon. Vous voyez, c'est tout un grand processus où on s'encourage à avoir envie de prier. Encore une fois, je suis sorti de mes notes, pardon. Oui, c'est ça que je voulais dire maintenant. L'autre chose, avoir un temps dédié à la prière. Souvent, nos journées sont vraiment remplies de tout un tas de choses, et à la fin de la journée, on se dit, oh mince, en fait, j'ai pas eu 5 minutes pour prier. C'est pas vrai. Si on veut avoir du temps pour prier, on peut, soyons honnêtes. Je peux faire le choix d'arrêter peut-être certaines activités pour me dire, là maintenant, je vais prier. Et ça peut être 5 minutes, ça peut être 10, ça peut être 30 minutes, ça peut être une heure, ça peut être deux heures dans la journée. En fait, en fonction de ce qu'on veut, de l'importance qu'on va mettre dans la prière, on peut l'avoir. Peut-être que si vous avez 0 minute dédiée à la prière aujourd'hui, de faire rentrer dans votre horaire 2 heures de prière quotidienne, ça sera peut-être difficile, je vous l'accorde, mais il faut peut-être commencer par un 5 minutes, un 10 minutes, peut-être un 15, un 20, 30. Vous voyez ce que je veux dire ? N'ayons pas peur de commencer peut-être petit en se disant « Ok, mes 5 minutes quotidiennes vont m'encourager à grandir et puis peut-être que dans un mois, je voudrais faire 10 », etc., etc. Qu'est-ce que je pourrais arrêter pour avoir plus de temps de prier ? Question que je vous pose. En introduction, on a vu différents moyens mis en place par l'homme pour prier. Je fais vite pour terminer à l'heure. Rapidement, on voit que Daniel prie 3 fois par jour. Dans les psaumes, on est encouragé à prier 7 fois par jour. Plus tard, les monastères ont encouragé les gens à rythmer leur journée au rythme de la prière. C'est pour ça que les clochers, à l'époque, sonnaient dans les campagnes. C'était pour parler et indiquer que c'est l'heure de prier, plus que d'indiquer l'heure. Et plus tard encore, les réformateurs ont encouragé plein de gens à travers des petits livrets qui encouragent à prier. Et pour dire qu'est-ce que c'est la prière, des très bons livrets au passage. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une grande mode. J'imagine que vous avez été influencé aussi par cette mode ici. Cette mode de plein de petits chants, de petits moments avec le moment dédié le matin, de faire sa communion fraternelle avec le petit chant « Lis ta Bible et prie chaque jour ». Est-ce que vous connaissez ça ? Ouais, peut-être les plus anciens. Et aujourd'hui, on a plein d'applications de lecture de la Bible, mais aussi d'applications de prière où on peut avoir des rappels de prier pour telle ou telle personne. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le long de l'histoire, on a essayé de mettre des moyens pour prier. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit trois mots choc. Prier sans cesse. Ne jamais s'arrêter de prier. Là, tout à l'heure, je vous ai dit, mais mettre dans son agenda peut-être au maximum 2 heures, ça serait énorme. Non, mais c'est même pas ce que l'apôtre Paul dit. Prier sans cesse. C'est-à-dire qu'en fait, notre journée, notre vie doit être une prière adressée à Dieu. J'aime énormément quand l'Assemblée dit un puissant Amen à la fin d'une prière. Mais Amen ne veut pas dire Amen, c'est la fin de la prière, enfin la réunion de prière est terminée. Ouf ! Non, la prière veut juste dire Ok, ainsi soit-il, gloire à Dieu, je suis chaud, allez, on continue ! Vous voyez la différence ? Le « Amen » ne doit pas rythmer nos fins de prière, mais doit nous amener à nous dire « Ok, quelle est la prochaine prière ? Comment ma vie peut être une prière par la suite ?» L'apôtre Paul va dire en 1 Corinthiens « Ainsi que vous mangez ou que vous buvez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Notre vie doit être menée pour la gloire de Dieu. Notre vie doit être une prière à la gloire de Dieu. Je voudrais vous encourager à mettre quelques petites choses à la place dans votre routine. Vous pouvez prendre votre téléphone, mettre un réveil à 10h02. Pourquoi à 10h02 ? Parce que ça fait référence à Luc chapitre 10, verset 2, qui dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Si vous voulez prier pour que Dieu envoie un réveil dans notre pays, il faut des ouvriers. Il faut que des gens, des hommes, des femmes se lèvent pour annoncer l'évangile. Alors, vous pouvez prendre vos téléphones, 10h02, on va prier à chaque fois, tous les jours, à 10h02, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Peut-être une autre technique, ça pourrait avoir un carnet de prière ou s'inscrire sur une application qui va nous envoyer des rappels de prière. Dans les applications, vous pouvez spécifier des personnes dans lesquelles vous voulez prier. D'autres choses, avoir des petits groupes de prière. 3, 4, se retrouver, soit s'appeler ou autre, pour alimenter votre vie de prière. Je l'ai déjà dit, mais venez et participez aux réunions de prière de l'Église. C'est important, c'est précieux, ça nous encourage. Pratiquez la Lectio Divina, ce temps à part où vous lisez lentement la parole de Dieu, vous vous inspirez de la parole de Dieu pour pouvoir répondre à la parole de Dieu. Juste en conclusion, ça va me permettre de terminer à l'heure, pile poil. Frère Laurent a dit « Il n'y a pas au monde de manière de vivre plus douce ni plus délicieuse que la conversation continuelle avec Dieu. » Très, très belle citation qui apporte une vérité incroyable. Juste à l'arrière du livre de Tim Keller, il est dit « La prière est une amitié qui rassasie. La prière met notre cœur au diapason de celui de Dieu. La prière est la clé de notre être et de notre action. Nous devons apprendre à prier. C'est une nécessité. » C'est ça, la prière. La prière, c'est une amitié entre ce grand Dieu et nous, par Jésus. Et la prière, c'est vraiment se mettre en diapason. Vous voyez ce que c'est un diapason? Vous savez à quoi ça sert? Petit truc qu'on fait vibrer pour entendre la note, c'est pouvoir accorder notre instrument au diapason. Et c'est un peu ça, la prière nous permet de nous mettre sur la bonne note par rapport à Dieu et vivre en communion avec lui. Elle est la clé de tout ce qui est notre être, de tout ce qui nous façonne, de tout ce qui va façonner aussi nos actions dans le quotidien. Donc on doit apprendre à prier. Et c'est pour ça qu'avec les anciens, on veut faire ce cours sur la prière, pour vous encourager à prier et à avoir une vie de prière. Est-ce que, très rapidement, il y a des questions? Ok, cool. S'il y a des questions, je suis là toute la matinée. Venez me voir, il n'y a pas de problème. Venez voir les autres pasteurs aussi. Je vous propose de prier. Et je prends l'excuse de la tempête, donc il y aura peut-être des gens en retard. Donc si vous voulez bien faire des petits groupes de 2-3 personnes, d'accord, et vous pouvez prier ensemble, et après ça sera le culte. Ça vous va? Merci.